d'écouter les programmes de Studio Kalangou. Il vient d'être à 17h. Le journal de ce mercredi 29 septembre 2021, c'est avec Nafis Adam Sirfo. Au sommaire, plusieurs chercheurs africains et européens sont à Niamey cette semaine pour échanger sur le système éducatif islamique en Afrique subsaharienne, une préoccupation de certains pays africains. La saison des pluies n'est pas encore à sa fin selon les services de la météorologie nationale, des précisions à suivre dans quelques instants. Et dans le magazine d'aujourd'hui, nous parlerons de la formation des parlementaires tenue les 24 et 25 septembre à Dosso sur la transparence dans les industries extractives au Niger. Bonsoir à tous et bienvenue. L'islam et le système éducatif islamique sont devenus des préoccupations pour quelques États africains du fait de certains actes posés et associés à la religion, indique Dr Zakaria Soré, enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Burkina Faso. Il participe cette semaine à Niamey avec d'autres chercheurs venus d'Afrique et d'Europe à un colloque international sur le système éducatif islamique en Afrique subsaharienne organisé par le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL. Docteur Zakaria, que je vous propose d'écouter.
Aujourd'hui, l'islam, de façon générale, mais l'éducation islamique est au centre des préoccupations de l'Afrique. Des préoccupations parce que plusieurs faits qui concernent la société sont souvent associés à l'islam, à sa présence, à sa vision du monde. Donc, permettre aux chercheurs, aux enseignants, aux doctorants de pouvoir se retrouver autour de cette thématique, c'est également permettre de pouvoir poser les véritables préoccupations de nos différentes sociétés aujourd'hui, les regarder du point de vue scientifique, et de voir comment à la fois les scientifiques et les décideurs peuvent prendre en charge donc ces différents problèmes qui constituent de véritables problèmes pour nos différents États. Et après avoir fini l'atelier, ce que nous allons faire, c'est en termes de vulgarisation de ce que nous avons pu avoir ici.
Des propos recueillis par Asmane Achina, parlons toujours éducation. Les autorités nigériennes ont décidé récemment que pour poursuivre les études supérieures dans certains domaines, il faut disposer dorénavant du baccalauréat, une décision qui n'est pas du goût de l'Union des scolaires nigériens USN, qui estime que l'administration nationale a encore besoin de cadres moyens. Ibrahim Abdoulaye, membre du comité directeur de l'USN, explique la position de sa structure au micro de Tarnan Foudey Ahmed.
Pour aller au niveau de l'ENAM ou bien pour accéder même à l'enseignement supérieur en tant que tel, si tu n'es pas détenteur du bac, cela n'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, dans nos administrations, il y a toujours ce besoin d'avoir des cadres moyens, surtout au niveau des collectivités territoriales. Au niveau de l'ISN, nous ne pouvons pas comprendre ou bien même accepter cela. Pour l'école normale, ça peut s'expliquer, mais pour l'ENAM et les autres écoles supérieures, on ne doit pas aujourd'hui nous dire que non, la nouvelle politique consiste à anéantir l'espoir des enfants des pauvres. Si c'est là son intention, nous allons créer toutes les conditions, nous allons user de tous les moyens légaux que nous avons pour pouvoir arrêter cette dérive de ce ministre de l'enseignement supérieur.
Je vous le disais dans les titres, au Niger, la saison des pluies n'est pas encore à sa fin, même si les précipitations se raréfient, a annoncé le service de la météorologie nationale. Néanmoins, dans les prochains jours, certaines localités situées en dessous du front intertropical pourraient enregistrer des pluies faibles à modérées. Suivez les explications de Mme Amine Nafissa, chef de service de prévision météorologique. Elle est au micro de Rafika Taher.
Actuellement, nous sommes en fin septembre et jusque-là, on continue à enregistrer des pluies par endroits sur le pays. Nous sommes vers la fin de la saison pluvieuse, mais ce n'est pas encore la fin de la saison pluvieuse parce que nous avons le FIT qui est un indicateur qui est encore bien positionné sur le pays. Donc toutes les localités qui sont au sud du FIT sont susceptibles d'avoir des précipitations si les conditions météorologiques sont réunies. Les jours à venir, on peut s'attendre à des précipitations, mais des faibles précipitations, mais en début du mois d'octobre, le FIT va chuter vers le sud, ce qui va faire en sorte que les précipitations vont se raréfier. Vers Niamey, Tillabéri, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de précipitations. La probabilité, elle est faible, mais elle n'est pas exclue.
L'actualité en région, depuis la fermeture du marché de bétail de Lela au Nigeria pour des raisons sécuritaires de la localité, les commerçants de Birnin-Konni, ville frontalière, sont confrontés à un problème d'écoulement de leurs animaux. Notre correspondant a rencontré quelques-uns. Il s'exprime au micro de Asman Moussarzika.
Effectivement, on fait le commerce de bétail, mais depuis la fermeture de ce marché de Lela, le commerce de bétail a vraiment chuté. Présentement, on a amené les animaux, mais les clients se font rares. Si tu achètes un animal cher, tu risques de ne rien gagner. Ce sont les gens du Nigeria qui viennent. Et s'ils arrivent, en fait, c'est les échanges commerciaux. S'il n'y a pas ces échanges, les affaires ne marchent pas.
Ce que j'ai à dire, le commerce, on le fait pour ne pas rester sans rien faire, tout simplement. C'est la conséquence de la fermeture du marché du bétail de Lela. Par le passé, ils venaient ici pour acheter avec nous. Aussi, les gens veulent la facilité et les moutons coûtent cher. Ça ne marche pas. À peine nous arrivons à vendre un ou deux moutons par jour.
La Direction générale des impôts du Niger demande désormais aux entreprises d'adopter le système de facture certifiée. Cette procédure les oblige à passer par un système informatisé. Pour Seydou Souley, promoteur privé, l'État doit procéder étape par étape, surtout en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. On écoute son analyse au micro d'Olivier Assogbavi.
Pour les grandes entreprises, c'est facile d'adopter une réforme de cette nature-là parce que, bon, peut-être même, ils ont déjà les logiciels qu'il faut. Maintenant, lorsque cette mesure est rendue obligatoire de la même manière à la petite entreprise, à la micro-entreprise et à l'auto-entrepreneur, là, il y a un souci. Le grand commerçant qui fait de l'import-export doit pouvoir mettre en place un système de facturation certifié. Parce que tout simplement, il fait des chiffres d'affaires de milliards et de milliards. Et en termes de TVA, si vous faites 1 milliard de chiffre d'affaires, la TVA théoriquement devrait être 190 millions. 190 millions pour une petite entreprise, c'est peut-être même 3 à 4 fois son chiffre d'affaires. En fait, c'est un chiffre d'affaires, c'est 3 à 4 années. Et donc, pour les petites entreprises, pour les artisans, pour les moyennes entreprises, pour les micro-entreprises, je pense que l'État doit être un peu plus diligent. Ne pas demander que tout de suite l'entreprise se mette au pas par rapport à la facture certifiée.
La suite de ce journal, le sous-sol d'Ingal renferme des eaux thermales qui seraient thérapeutiques aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Le chef du village d'Ingal, qui est également le gardien du site, et une autre personne rencontrée sur place parlent des bienfaits de ces eaux souterraines. Elles sont interrogées par Talata Abdoubahar.
Cet endroit, avec la volonté de Dieu, les gens qui viennent de l'extérieur, qui arrivent malades, s'ils se lavent dans cette eau, c'est la guérison. Mais nous, les autochtones, si on se lave dedans, c'est comme zéro. C'est la volonté de Dieu. Si c'est un étranger, deux jours, trois jours, c'est la guérison.
Les gens viennent de l'Algérie, de la Libye, du Tchad et d'un peu partout et ils trouvent satisfaction par rapport à ce qu'ils cherchent. Des fois, on amène des gens très malades, mais au bout de deux ou trois jours, ils recouvrent leur santé grâce à Dieu. Tout le monde a compris l'importance de cette eau.
Je suis venu ici avec un malade de maladie. On a fait pas mal d'hôpitaux. Galmi, Tessa, maladie. Mais depuis qu'il a pris son bain ici, il n'est plus malade. Mais moi, je suis guéri. J'étais ici avec un gonflement du corps. Quand je me suis lavé dedans, mon corps s'est dégonflé. Je ne savais pas que j'étais malade.
Le peuple Dandi forme un groupe socio-culturel qui s'est imposé par sa langue. Dans la langue songhaï, le mot Dandi signifie littéralement descendre le fleuve ou naviguer dans le sens de l'écoulement de l'eau. Cependant, quelle est l'étendue de l'espace Dandi? Réponse avec Haruna Hanchitatu, membre de la chefferie de Gaya, la capitale du Dandi. Il est joint au téléphone par Gungu Mahamad Dantani.
En suivant le fil de l'eau du fleuve, c'est ce qu'on appelle Dendi en langue songhaï. L'espace du Dendi s'étend à partir du village de Bumba au Niger jusqu'au Bénin à Bamba, Kargi, Kandi et Djeni. Il fait une boucle à Bujikali, Kwachi, Garou, toujours au Bénin, pour continuer sur Ilo, Lolo, Tchangekoi, Kamba au Nigeria, pour revenir à Yelou, Tunuga, Bana, Bengu, Tanda et Gaya au Niger. C'est tout cet espace qu'on appelle le Dendi. C'est un groupe socio-culturel influent. Les populations de cet espace du Dendi ont une diversité de langues. Les Dendi du Nigeria parlent Hausa. Ceux du Niger, Ayelou, Bana, Bengu, Tunuga parlent également le Hausa. Les Dendi qui sont à Gaya parlent le Dendi, le Germain et le Hausa. Les Tchanga ont leur propre langage parlé. Les habitants de Tanda, Karmama, Bujikali, Lolo sont tous des Dendi. Voilà l'aperçu historique de l'espace Dendi.
Du sport pour terminer, la Fédération nigérienne de gymnastique créée en 2017 a organisé son premier championnat national de la discipline dénommée Olympiade gymnastique du Sahel. La rencontre sportive s'est tenue le samedi à l'Académie des arts martiaux de Niamey, une compétition qui a duré une journée. Les détails avec Abdelaziz Amani Saleh, président de la Fédération de gymnastique. Il est au micro de Salamatou Kadri.
C'est le premier championnat de gym que nous venons d'organiser. Nous avons bien sûr eu plusieurs petites manifestations. Nous avons fait de la gymnastique au sol qui fait partie de la gymnastique artistique pour hommes et pour dames. Donc c'est le sol que nous avons pu faire parce que nous n'avons pas les autres matériels, nous n'avons pas les barres fixes, les barres asymétriques, les anneaux, la poutre, le cheval, qui sont vraiment des agrès sur lesquels font leurs prestations. Nous n'avons pour le moment que les tapis. Nous ne pouvons qu'être fiers parce que nous avons pu faire venir toutes les régions à Niamey. Toutes les ligues de l'intérieur ont pu prendre part à cette Olympiade gymnique du Sahel. En dehors des manifestations de proximité, nous allons faire en sorte que cette activité puisse se faire de l'école primaire, le collège et les lycées.
À présent, la partie magazine de ce journal, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire OTAB, en collaboration avec le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, a organisé à Dosso les 24 et 25 septembre une séance de formation des parlementaires sur le cadre juridique et la gouvernance des industries extractives au Niger. L'activité a été financée par la coopération suisse pour aider les députés à accompagner le gouvernement dans le cadre de la gestion du secteur. Notre reporter Moussa Hassani était, voici son compte-rendu.
L'objectif visé à travers cette rencontre entre acteurs de la société civile et les députés nationaux est de créer des conditions d'échange, notamment sur les questions de gouvernance des industries extractives au Niger et sur leur cadre juridique. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire entend ainsi accompagner la nouvelle législature dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur du ROTAB, Ali Idrissa.
C'est une nouvelle législature qui commence. Il faut les amener à comprendre les enjeux stratégiques concernant les industries extractives. Pour que quand le gouvernement va amener des lois au niveau du Parlement, il puisse être capable de réagir efficacement. C'est eux qui peuvent aussi interpeller l'État en cas de problème dans le cadre de la gestion de ces ressources naturelles. Étant les représentants du peuple, ils sont à même de pouvoir amener le gouvernement et les compagnies à respecter le minimum pour que nous puissions et profiter et qu'il y ait moins de dégâts sur la nature. Demain, vous allez vous réveiller, il n'y a plus d'uranium, il n'y a plus d'or, il n'y a plus de pétrole au Niger. Donc, que ces générations puissent profiter de ces ressources et aussi les générations futures.
À l'issue des échanges et des travaux, les parlementaires bénéficiaires de cette formation se réjouissent de l'initiative et estiment être assez éclairés pour défendre les droits de leur communauté.
Ma commune est traversée par le tuyau des pipelines. Donc j'ai plus de 34 administrés qui sont des propriétaires des champs où sont passés par le pipeline. Que vraiment leurs droits reviennent, leurs dédommagements. Inch'Allah, même si c'est l'interpellation du ministre de Mines, on va faire. Parce que les administrés là, c'est eux qui nous ont envoyés à l'Assemblée. Et on cherche leurs droits, c'est normal.
Notre mission en tant que député du contrôle de l'action gouvernementale nous impose d'avoir un minimum d'outils qui vont nous permettre de pouvoir exercer cette mission. Tous les députés qui ont participé disposent du minimum dans le domaine des industries extractives. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour que cette formation soit étendue à l'ensemble des députés parce que le secteur est très stratégique pour le développement de notre pays.
Dans l'intérêt du Niger, les députés nationaux comptent apporter leur contribution à travers la redevabilité.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les éditions d'information en langue nationale et à partir de 18h15, le forum de Studio Kalangou qui a pour thème gestion de la COVID-19 à Maradi. Quelle est la situation de la vaccination? Il est présenté par Mohamed Maman.